Vous êtes prêts pour la parole ? Alors, troisième tentative. Parce que vous rappelez que j'ai. Alors, je vous rappelle que tous les enseignements sont sur Internet et vous pouvez les réécouter, les télécharger gratuitement. Et pour cela, j'en suis vraiment heureuse. Je suis contente qu'on puisse réécouter ce qui a été prêché. Mais j'ai prêché sur les générations. Vous vous rappelez ? Que j'ai utilisé par exemple psaume 90 verset 1 qui dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération ». Psaume 100 verset 5 « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération ». L'autre jour, je parlais à mon neveu qui, et puis il était inquiet pour son fils. Et c'est un très très bon papa, très très bon papa. Et il disait, tu sais, oh là là, franchement, il dit, moi, je suis, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, il dit, moi, je suis inquiet. Il dit, mais dans quelle société Nathan va grandir ? Nathan vient juste d'avoir 10 ans hier. Et il dit, mais tu te rends compte ? Il dit, mais c'est fou. Il dit, tous les trucs qu'on entend, il y a tellement de choses qui sont même fausses. Comment il va faire la différence ? Et je lui dis, tu sais, Alex, c'est très simple. Il y a des écritures dans la parole de Dieu qui disent que Dieu est un refuge pour toutes les générations. Et je dis, si tu donnes Dieu à ton fils, eh bien, il connaîtra où se réfugier quand il y a la confusion, quand il y a la peur, quand l'économie n'est pas bonne, s'il y a un tremblement de terre. Quoi que ce soit, il connaîtra l'adresse de son refuge. Parce que Dieu a promis qu'il est un refuge pour toutes les générations. Et Dieu sera un refuge pour quiconque connaît son adresse. Aussi simplement que cela. Après, on a continué sur le sujet et il était tellement content d'entendre cela. Puis je vous ai expliqué aussi que pour la première venue de Jésus, Dieu a eu besoin qu'il y ait certaines catégories de personnes qui soient impliquées dans la période, au moment de la période de la venue de Jésus-Christ. Par exemple, Dieu a eu besoin qu'il y ait des bergers qui soient impliqués dans l'événement, qui entendent l'annonce qui était attendue depuis la Genèse, depuis que l'être humain a choisi de se séparer d'avec Dieu et que Dieu a dit, eh bien, j'amènerai une semence particulière, un rédempteur. Depuis ce jour-là, les êtres humains attendent que le Rédempteur, celui qui va nous permettre d'être réconciliés gratuitement avec Dieu, de retrouver le chemin, et on connaît le nom du chemin qui nous amène à Dieu, ce nom est Jésus-Christ. Et là, l'annonce, ça y est, il est là. Il y a 2000 ans, et les bergers dans les champs entendent cette annonce. Et puis, il y a eu besoin que d'autres personnes, d'un style complètement différent, soient impliquées. C'était les sages. Ces personnes étaient des gens grandement éduqués, des astronomes qui étudiaient constamment l'univers pour trouver les signes. Alors, on n'est pas dans les signes du zodiaque, parce que ça, c'est vraiment tu parles du fake news, toi. Hein. Mais les étoiles, Dieu a dit que Dieu nous parle par la nature. Et les étoiles annoncent également les événements du Seigneur. Dieu ne veut vraiment pas jouer à cache-cache avec l'être humain. Il essaie de nous parler de mille et une manières. Ça ne veut pas dire qu'on doit adorer la nature. Non, la nature n'est pas ma mère. Naturellement, ma mère, c'est Marie-Thérèse Moulin. Mon père, Michel Moulin, en ce qui concerne le terrestre, et le spirituel, l'éternel Dieu, le Dieu vivant, créateur de l'univers. Mais Dieu a eu besoin que ces astronomes soient là. Dieu a eu besoin d'une autre catégorie de personnes encore. Il a eu besoin de personnes jeunes. On a vu que Marie a été impliquée. Dieu a utilisé Marie. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du groupe A, les moins de 50. Alors, soyez pas pragmatiques, hein. N'aimez pas les détails au point de dire c'est 50 et 49. Tu y es 51. Non, grosso modo, le groupe A, ce sont les plus jeunes. Et puis, Dieu a eu besoin du groupe B. C'était les plus jusqu'à plus. Dieu a eu besoin des jeunes et Dieu a eu besoin des moins jeunes. On a vu que les jeunes, Marie, eh bien, a su vers qui se tourner quand elle a eu de grosses questions. Quand elle a entendu cette nouvelle qu'elle porterait le Messie dans son corps, eh bien, elle ne s'est pas tournée vers ses copines. Elle n'a pas lancé une annonce sur Facebook en disant « Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je fais quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qui connaît les prophéties ?» Non, elle s'est tournée vers quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui l'avait devancé dans sa marche avec Dieu, vers quelqu'un qui était bien plus âgé qu'elle, vers Élisabeth. Et par là, vers Zacharie également, qui a répondu quand il a pu retrouver la parole, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'Élisabeth, elle a dû être ouverte au lieu de renvoyer les jeunes en disant « Oh, vous les jeunes, ou alors vous êtes franchement, oh, laisse-moi un peu tranquille, je suis à la retraite, hein, oh, débrouille-toi, fais comme moi. Oh. » C'est pas la réaction qu'elle a eue. Elle a su être ouverte et elle a su, elle avait conservé sa marche avec Dieu et elle a su identifier que l'Esprit de Dieu était en train de faire quelque chose chez quelqu'un de bien plus jeune. Ce qui veut dire que les portes du cœur ont dû rester ouvertes. Et j'aimerais qu'on continue à parler de ces générations et comme je sens que l'onction est là, je vais pouvoir finir mes messages. Merci Seigneur. 1 Rois, chapitre 12. Là, pour vous donner un peu le contexte, eh bien, le roi Salomon est mort. Vous savez que le roi Salomon était un grand constructeur, un grand bâtisseur. C'était un homme qui était connu pour sa sagesse, au point que la reine de Saba s'est déplacée et montée d'Égypte pour voir tout ce qu'il avait bâti parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de ce roi parce que la Bible dit on bâtit une maison avec la sagesse et de préférence la sagesse de Dieu. Et quand elle a vu ce que le roi avait bâti, elle a dit mais même tes serviteurs sont plus riches que n'importe lequel d'entre nous. Et puis il se trouve que le roi est mort et son fils Réhoboam eh bien, va prendre le relais. Son fils a maintenant 40 ans et on va voir ce qui s'est passé. Le peuple, je vous le dis comme cela, hein, je résume. Roboam est sur le trône et puis il y a Jéroboam. Alors je sais qu'on peut se mélanger un peu les pinceaux, mais je sais que vous êtes concentrés. Jéroboam était un des serviteurs de Salomon. Et Jéroboam et le peuple se présente devant le nouveau roi, Roboam, et puis ils ont une requête à lui présenter. Verset 4. « Ton père, Salomon, a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Bon, parce que Salomon était quelqu'un qui avait de grands projets, qui avait une grande armée, et le peuple était prospère, mais les impôts étaient lourds. On aurait pu croire qu'il se trouvait en France, lui. No comment sur le sujet. Ceci dit, il y a quand même une leçon. Et le peuple... Non, il portait pas des gilets jaunes. Mais le peuple est allé avec un serviteur, avec quelqu'un qui avait vécu en présence du roi. Et ils ont dit, tu sais, il faut que tu allèges, ne recommence pas comme ton père. Pourquoi ? Ben parce que ce jeune roi, ben il avait quand même 40 ans, hein, mais il se trouve qu'il avait 18 femmes, 60 concubines, il engendra 28 fils et 60 filles. Qu'est-ce que ça vous dit ? Que cet homme, même s'il ne voulait pas construire davantage, ben, il avait beaucoup de frais. Alors, ça n'est pas ce que le Seigneur nous encourage à faire, parce que la Bible dit « chaque mari, une seule femme ». D'accord ? Mais à l'époque, c'était ce qui se faisait. D'ailleurs, le nombre de problèmes était en proportion du nombre de femmes qu'ils avaient. Donc, ils ont vu venir. Et ils ont dit, lui, en plus, il a été élevé dans la maison de son père, il a des goûts de luxe, et lui, il va continuer à nous augmenter les impôts. Et dit, nous, on n'en peut plus, là. Pourquoi ? Parce que à force d'augmenter les impôts, eh bien, moi, je n'arrive plus à m'occuper de mes propres enfants. À force d'augmenter les impôts, eh bien, ça finit par être injuste, cette histoire-là. Et il y a juste un problème si je ne vois plus le fruit de mon travail. Il y a juste un problème si je ne peux pas laisser un héritage conséquent à mes enfants. Parce que tout est parti dans le bien commun, ou peut-être un bien qui n'est pas si commun que cela. Et on a des questions. Je me calme sur le sujet et je reste sur ce qui est biblique. Mais Roboam cherche une réponse. Il a besoin d'une réponse. Donc, quelle est ? Et moi, j'ai besoin d'un Kleenex. Et regardez la réaction de Roboam. On parle de quoi, là ? On parle des générations. Roboam, verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 11. Le roi Roboam, donc Roboam, il est dans le plus jeune groupe, hein, consulta les vieillards. Et je vous ai dit tout à l'heure, les moins de 50, c'est groupe 1. Mais non, les moins de 50, c'est les personnes âgées. Et groupe B, c'est l'inverse. Bon, je me suis trompée. Enfin, vous, de toute façon, vous y êtes. Hein. Allez, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, « Ok, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. Bah, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds. Donc il l'a consulté les plus anciens. Bah, ça semblait assez logique parce que ces vieillards, ce n'étaient pas des personnes qui avaient 120 ans. C'était des personnes qui avaient la sagesse, qui avaient l'expérience. Ces personnes connaissaient la diplomatie. C'est ce que ça veut dire, toi ? C'est pas parce qu'il y en a un qui nous sort de l'ENA, de l'université, de tout ce que vous voulez, des grandes écoles, qui est, c'est un bon diplomate, il ne suffit pas d'avoir les bonnes informations. On peut rapidement se brouiller avec un autre pays si on ne sait pas négocier. Donc c'est lourd, il ne s'agit pas de dire « je sais ». Il y a une manière de faire les choses, et ça s'appelle la sagesse. Il ne s'agit pas d'avoir la connaissance. Et mes amis, en général, la sagesse vient avec l'expérience. Donc lui, il se tourne vers des personnes qui ont une lourde expérience, qui ont été au contact de la sagesse de Salomon. Vous vous rappelez qu'il était connu pour ça. Vous rappelez que quand il y a deux femmes qui sont venues devant lui, il y en a une qui dit, mais hey, elle a pris mon bébé. Elle venait d'accoucher, elle dit, elle a pris mon bébé, elle a volé mon bébé. L'autre dit, ah non, celui-là, ça c'est mon fils, ça c'est mon bébé. Le roi Salomon, plein de sagesse. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, coupez-le en deux. Non mais, quel est aujourd'hui, si Monsieur Macron disait ça, c'est sur tous les réseaux sociaux, et on dit, arrow sur le... Baudet et à la guillotine. Non. Il savait ce qu'il savait. Il connaissait l'instinct maternel de la maman. Et la vraie maman a dit non. Laissez-le en vie, je préfère le donner. Et l'autre a dit non, mais coupez-le. Voilà, c'est ça y est. Ça, c'était la sagesse. Mais ça, on n'apprend pas ça à l'école. Ça, c'est l'expérience de la vie. Ça, c'est avoir vécu comme un père. Ça, c'est avoir vécu avec une femme qui est une mère. Ça, c'est avoir vu sa propre mère à l'œuvre. Et les vieillards vont donner un conseil à ce jeune roi. Il dit, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa, c'est-à-dire rejeta, le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens. qui avait grandi avec lui, c'est-à-dire qui n'en savait pas plus que lui, qui était pratiquement au même niveau d'expérience, de connaissance. Et il leur dit, à ceux qui l'entouraient, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père ?» Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. C'est vraiment mis en avant, les jeunes gens. Ça n'est pas qu'une question d'âge. Et lui dirent, bah, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu son langage ?» ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père qui vous a châtié avec des fouets. J'ai loupé une phrase. Non. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Vous savez, ce jeune roi, jeune, 40 ans, c'est pas jeune. On s'attend à ce qu'il ait plus de sagesse que cela. Mais écoutez-moi bien, la sagesse ne coule pas dans les veines. La sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. La sagesse, c'est pas quelque chose que l'on reçoit en héritage. Et vous savez pourquoi ? Il est allé consulter les jeunes, ceux qui l'entouraient, ceux qui n'en connaissaient pas mieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand il a entendu le conseil des plus anciens, ça n'est pas ce qu'il voulait écouter, ce qu'il voulait entendre. Ça n'est pas la réponse qu'il voulait. À vrai dire, il a posé des questions, il a cherché conseil, non pas parce qu'il voulait une réponse, mais parce qu'il voulait trouver des gens qui l'approuvent dans ce qu'il avait déjà décidé de faire. Et ça nous dit quelque chose sur les relations entre les plus âgés et les plus jeunes. Pourquoi les jeunes ne vont pas suffisamment vers les plus âgés s'ils veulent vraiment une réponse ? Parce que très souvent, ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire et ils n'ont pas envie d'entendre autre chose. Et puisque ces personnes qui avaient travaillé avec Salomon avaient vu ce que Salomon avait fait, il a dit « je suis certaine qu'ils vont dire, vas-y, nous, ton père l'a fait, t'as qu'à le faire. » Non, les choses ont changé. Il y a des règles pour chaque étape. Vous me regardez comme si personne n'était concerné, là. Mais écoutez bien, verset 13, 15, « Le roi répondit durement au peuple. » Vous savez, il ne voulait pas conduire son peuple dans la prospérité. Il voulait se servir de son peuple pour sa propre carrière. Quand j'entends un leader qui est la plus haute autorité du pays, qui parle mal à son peuple, ou qui parle mal de son peuple, il vient de me dire ce qu'il va faire du peuple. Et j'assume ce que je dis. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta pas le peuple. Quelles sont les conséquences ? Verset 18. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Non, mais il est franchement gonflé, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie au peuple des collecteurs d'impôts. Non seulement il vient de leur annoncer que le futur n'était pas brillant, mais en plus il dit tout de suite, je vais vous le montrer, je vais vous l'imposer. Et regardez ce qui se passe. La colère est tellement grande dans le peuple, mais Adoram fut lapidé par tout Israël. C'est-à-dire que vous dites, Bon, et après, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir de Jérusalem. Alors, on pourrait dire, bon ben voilà, ils l'ont lapidé, ils ont tué le ministre des Finances. Non, c'est plus que cela. Parce que vous avez la phrase suivante qui nous dit réellement ce qui s'est passé. Et il est dit, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout Israël n'a pas simplement dit, on ne veut plus d'impôts et on va te montrer ce qu'on fait avec les ordres que tu nous donnes. C'est, ils ont dit, on ne veut plus que quelqu'un de la maison de David règne sur nous. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire non à l'alliance davidique. Mais dites-moi, le Messie vient de quel d'où? C'était grave, ils étaient en train de se détacher du plan de Dieu. Voilà ce qu'a fait un seul homme, parce qu'il a consulté les mauvaises personnes et il a méprisé le conseil des anciens. Combien de jeunes ne vont pas sur une voie, je parle même carrière professionnelle, parce qu'ils écoutent plus leurs amis ou ils veulent plus être avec leurs amis plutôt que de croire dans la vie de leurs parents. Alors, effectivement, il n'y a pas que les personnes plus âgées. Et évidemment, ça ne veut pas dire que les amis, on ne leur demande pas conseil. Mais qui nous connaît le mieux? Si on voit que les personnes qui nous entourent sont des personnes qui ont du bon sens, ben, il faut peut-être se demander qui a vécu le plus. Maintenant, est-ce que les personnes âgées sont capables de donner des conseils qui vont libérer les jeunes au lieu de se les garder pour soi? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut à laquelle on doit penser. En continuant avec les générations, Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés » Et au cas où on ne comprend pas ce que veut dire ce mot, ça veut dire imbécile, stupide, ennuyeux, simple et arrogant. S'en trouve mal. Pourquoi croyez-vous qu'il y a l'apprentissage dans les professions? Parce que ceux qui sont dans le métier depuis, qui l'exercent depuis des années, il y a juste une manière d'appliquer la connaissance. Et ils veulent retransmettre à quelqu'un. Et d'ailleurs, quel que soit le métier que nous fassions ou que nous ayons, trouvons quelqu'un en qui investir. Moi, je regrette quand j'entends parler, je pense à des hommes d'affaires, qui connaissent la manière de négocier et qui ne cherchent pas des jeunes en qui investir. C'est valable pour tous les métiers, c'est valable pour le mien dans le ministère. Investir dans les plus jeunes. Il faut qu'ils le veuillent. Et il faut qu'ils veuillent ne pas seulement, et qu'ils acceptent de ne pas seulement entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, vous pourrez regarder l'exemple dans Esdras. Je vous le dis, il se trouve que tout Israël... Parce qu'après, je veux vous montrer quelque chose de particulier. Je veux que l'on voit quelles sont les caractéristiques des générations. Et je crois que ça va nous ouvrir les yeux et on va mieux comprendre comment pensent les plus jeunes et comment pensent les plus âgés. Mais en tout cas, avec ce que l'on voit dans le livre de Esdras, c'est que le peuple juif avait été amené en déportation, en exil à Babylone. Et ils y sont restés pendant 70 ans. Au bout de 70 ans, je vous la fais vraiment courte, hein. Au bout de 70 ans, eh bien, l'esprit des prophètes s'est réveillé et ils ont dit, tu sais quoi, il est temps maintenant que l'on retourne sur nos terres et que l'on rebâtisse ce qui a été complètement ravagé. Notamment les fondations du temple, notamment la muraille de Jérusalem, etc. Et puis il se trouve que à cette époque-là, il y avait Cyrus le Grand qui était favorable au peuple et qui a dit d'accord, non seulement il y a plus de 40 000 d'entre vous que je vais laisser retourner sur les terres à Jérusalem, mais en plus je vais vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans cette tâche-là. Et Cyrus, qui était un roi qui n'était pas connu pour être un roi croyant, a été utilisé par Dieu. Donc ils sont retournés. Et puis ils se sont mis à la tâche, les jeunes et les vieux. Il y avait des fils de sacrificateurs là, et il y avait toutes sortes de prophètes. Il y avait Néhémie, il y avait Agé, il y avait Esdras, etc., qui étaient là. Et puis, quand tout a été reconstruit ou suffisamment, ils ont dit « Maintenant, on va célébrer le Seigneur ». Et puis là, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que tous les jeunes, vous relirez chez vous, tous les jeunes se sont mis à danser. Mes lunettes sont passées en dessous. Tous les jeunes se sont mis à danser. Tous les jeunes se sont mis à célébrer le Seigneur. Et ils étaient en train d'applaudir. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur pour ce qu'était le temple. Bon, il se trouve que les plus âgés, la Bible nous dit qu'eux alors, ils étaient mais en larmes. En larmes. Ils ne se réjouissaient pas. Tous ceux qui avaient quoi ? Connu la gloire du temple précédent. Et il dit aux jeunes, mais comment vous pouvez vous réjouir de ce que vous voyez là, alors que nous avons connu le temple, la maison de l'Éternel, avec une gloire qui était bien plus supérieure. Au lieu de mettre du beau bois, vous mettez de l'IKEA. Au lieu de l'or, vous mettez du plaqué or. Au lieu de... Bon, j'exagère, mais c'était... Hein. Et il disait, mais comment vous pouvez vous réjouir ? Et vous savez ce que le Seigneur a fait ? Il a repris tout le monde. Et il a dit, tout Israël, remettez-vous au travail. Et il continue à dire par un autre prophète, il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et à vrai dire, il parlait de quelle gloire ? De la gloire du temple que nous constituons aujourd'hui. C'est-à-dire, il y aura encore d'autres. Mais il ne leur a pas dit, vous les jeunes, vous avez tort de vous réjouir. Vous les plus âgés, je comprends. Il a dit non. Il dit, et après, il a dit, eh bien, comme vous avez vu l'Esprit de Dieu construire la première maison, vous verrez que l'Esprit de Dieu sera avec vous pour l'autre maison. C'est-à-dire, je suis celui qui bâtit. Mais il faut qu'ensemble, vous continuiez à travailler. Et c'est ce que l'Église a besoin d'entendre, que l'Église, pour que le Seigneur bâtisse sa maison, il faut que tout le monde dans l'Église s'y mette. Il n'y a pas une génération qui est mieux que l'autre, nous avons besoin de toutes les générations. Au lieu de disséquer, vous avez le monde des juifs, des jeunes, vous avez le monde des moyens et vous avez le monde des anciens. Mais c'est quoi ça ? L'Église n'est pas une maternelle, l'Église n'est pas une maison de retraite. L'Église est unique et tout le monde se met en même temps et c'est le Seigneur qui fait le travail. Maintenant, j'aimerais vous parler des caractéristiques, puisque nous vivons ensemble, image numéro 1. J'aimerais vous parler des 6 générations. Il faut savoir que chaque génération a des valeurs particulières, des caractéristiques particulières, des aspirations qui sont formées différemment, qui sont formées par les crises politiques, économiques, par les découvertes et par les guerres. Alors j'ai commencé par une première génération qui s'appelle la génération G. Je vais vous donner des dates, mais en fonction... des chercheurs que vous consultez, vous n'avez pas forcément les mêmes dates à 5, même 10 ans près, mais disons que c'est un créneau, hein, donc faisons avec. Génération G, de 1901 à 1925, est-ce qu'on en a parmi nous ? Non. Bon, on va en avoir parmi nous qui sont parmi les autres générations. Hein. Bon, vous êtes là ? Ok. Alors, cette génération-là, donc avant la Première Guerre mondiale, était du genre autoritaire et narcissique. Ils ont fait la première guerre, et pour ceux qui ont vécu plus longtemps, ils ont vu la seconde qui a forgé le monde moderne. Et ils ont grandi à une époque où les grandes armées préservaient la paix. C'était des gens, ou ce sont des gens pour ceux qui sont en vie, qui étaient très loyaux envers les institutions. Après 1925-1942, est-ce qu'on en a parmi nous ? Ah, 3, 4, c'est excellent. Alors vous, vous êtes appelés la génération silencieuse. On ne vous demande pas de vous taire, on vous dit juste, voilà, dans quelle catégorie, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la caractéristique de cette génération, c'est la loyauté et le sens du devoir. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Oui. Alors, quels sont les événements qui ont forgé cette génération ? J'ai l'impression de donner l'horoscope et que chacun est en train de... Mais vous vous êtes réveillés, c'est bien. Chacun attend de voir ce qui appartient à sa propre génération. Les événements qui ont marqué cette génération, ben, ils ont vécu durant les temps de guerre et de dépression. Ils ont grandi à une époque où la qualité du travail équivalait à... C'était de l'art. Il fallait que ce soit de l'art qu'ils fournissent. C'était le meilleur. Et c'était aussi de plus dirigé sur la spécialisation. Et chacun avait sa spécialité, chacun était formé, le charpentier devait être le meilleur charpentier, et puis on ne lui demandait pas d'être cordonnier en même temps. Les caractéristiques de cette génération fataliste, conventionnelle, elle est réputée pour travailler dur, elle n'est pas revendicatrice, d'où son nom, elle est silencieuse. Elle est docile face à l'autorité. Et sa gratification vient de l'effort du travail fourni. Elle prônait l'oubli de soi et la contribution au bien commun. La loyauté envers son entreprise, économe, prudente, et le désir d'être rémunérée en salaire et en avantages sociaux. Est-ce que vous vous êtes reconnue là-dedans ? Bon, maintenant, 43, d'autres disent 59, 43, 45, 55, enfin bref. Baby boomer, jusqu'à 59, 55, 59. Qui est dans cette génération ? Hi-haw ! Alors, image, accomplissement dans le travail. Accomplissement dans le travail, c'est quoi ? Ben, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si je suis née, moi, 13 ans après. Hein. C'est une croissance économique sans précédent. Qui est dans cette génération des baby-boomers ? Ça, c'est pour vous faire réagir, pour vous réveiller. Croissance économique sans précédent. Le plein emploi grâce... Ben, c'est la reconstruction après la guerre. C'est l'époque du rock'n'roll. Ouais, moi, j'étais encore un peu jeune, mais c'est bon. Et c'est le peace and love. Vous vous rappelez de cela ? On y revient d'ailleurs, la mode hippie est en train de revenir. Hein. Et puis aussi, moi j'ai vécu avant et j'ai vécu après. La télévision en noir et blanc. Et il y a plein de têtes qui font ça, il y en a d'autres qui sont... 3 chaînes, une seule et après 3. Mais souvent, dans les 3, on ne voyait qu'une parce que c'est le père qui choisissait. Celle qui marchait le plus. Et puis, y a eu mai 68. J'avais 18, tu dis ? Non, moi j'étais jeune, j'avais 10 ans. Mais Je me rappelle d'entendre, j'ai fait des séjours à Paris, et puis je me rappelle d'entendre les hurlements, parler des barricades, mon père était en grève, etc. Je me rappelle de toutes ces choses-là. Caractéristique, entrer sur le marché du travail avec des possibilités d'emploi exceptionnelles, réussite professionnelle. Alors je vais vous dire, vous savez que quand j'ai eu 20 ans, je me rappelle... On était en terminale, on était en train de nous dire, alors que 58, 20 ans après, 78, on était encore dans les 30 glorieuses, presque, et on était en train de nous dire, mais vous n'aurez pas de travail. Alors je vais vous dire, hein, le monde, faut pas... Et la caractéristique, c'est les baby boomers, ils respectent l'autorité et le job à vie. On est encore là. Cette génération est souvent le symbole de la libération sexuelle, fait de l'amour par la guerre. Préoccupation quand même des valeurs familiales, malgré les nombreux divorces. Sentiment d'appartenance à l'entreprise, les collaborateurs sont considérés comme une famille et ils sont plutôt matérialistes. Ils sont dans un système centré sur l'estime de soi et la carrière. Ils sont les instigateurs des réformes sociales, des rébellions. Ils crient à la liberté, ils veulent changer le monde. Ils sont déchirés entre la rébellion et le pouvoir, mais ils ont un grand respect pour les institutions et les autorités. Ils veulent garder leur jeunesse à tout prix. Vive le Botox et le lifting.
Sans le Botox et le lifting.
Pour les croyants. Et puis après, il y a eu la génération X. Style 58-79. Qui en fait partie ici? 58-59. Ah, bah soyez pas tristes. Oh. Et il y a certains, ils n'ont pas d'âge, ils lèvent pas les mains, il y a un truc là. Hein. Et c'est pas parce qu'ils sont parmi les plus jeunes. Hein. Ok, est-ce que vous voulez entendre ce qui caractérise cette époque là? X, pourquoi? Parce qu'ils savent pas trouver leur repère. Ils sont à la recherche de défis et ils ont besoin d'apprendre. Ils sont dans la période de transition sociale entre le déclin de l'impérialisme colonial et la seconde crise pétrolière de 78 et la chute du mur de Berlin qui met fin à la guerre froide. C'est pour de bon la fin des 30 glorieuses, de l'abondance et c'est le début de la précarité. Trouver un emploi stable et bien rémunéré devient difficile. Et c'est la génération, la première, qui est confrontée au chômage de masse. Et puis, c'est aussi le sida et Tchernobyl. Les caractéristiques, confrontation à une pénurie d'emploi, d'où une attitude égocentrique et sarcastique. Non à la description de tâches, oui à l'assignation de responsabilités. Désir de participer à la prise de décision et à la détermination des objectifs. Critique face aux institutions et aux autres générations. Désir d'évoluer dans un milieu collégial et convivial. Recherche de gratification immédiate. Équilibre entre travail et vie de famille. Ce n'est pas uniquement le travail comme les autres. Évolution dans le multiculturalisme. Égalité des sexes et l'écologie, et ils sont beaucoup plus centrés sur leurs propres besoins. Ensuite, génération Y, appelée les millennials, appelée la E-génération ou la génération Erasmus. Enfin, eux, ils ont tous les noms. En référence à Internet. À peu près 78-1994, qui est concerné par ça ? Oh, alors, vous, génération Y, eux, c'est le coaching et rétroaction, c'est-à-dire action en retour d'un effet sur sa propre origine. Action en retour d'un effet sur sa propre origine. Les événements. Elle est arrivée dans un marché du travail plombé par les chocs pétroliers. Ils considèrent comme dépassées les transformations morales des années 60 et 70. Ils n'ont pas connu le monde sans le sida. Ils ont appris jeunes à vivre parmi les médias envahissants, la télévision, le téléphone, Internet. et plus tard le téléchargement de la musique, le chat et la télé-réalité. Caractéristiques: hyper-consommation, hyper-sexualisation, ouverture sur le monde, peu de modèles auxquels s'identifier, notion floue du bien et du mal. 68 est passé par là et 68 les a élevés. Équilibre, travail, famille et loisirs, alors que les congés payés, c'est quand même depuis 36. Rébellion face à l'autorité, incompréhension du besoin de ponctualité, de marque traditionnelle de courtoisie, du port du costume, etc. Respect envers la personne qui sait devenir un modèle. C'est-à-dire, c'est plus le fait qu'une personne soit en autorité, porte un titre, ait des sigles derrière son nom, c'est plus ça qui compte. C'est, est-ce que tu es un modèle? C'est ça qui fait que je te respecte ou pas. Elle est génératrice d'idées, débrouillarde des critiques, besoin de coaching, recherche d'un mentor et non d'un supérieur. Veulent avancer seuls, mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter si ça ne fonctionne pas. Ils ont le désir d'évoluer au sein du milieu collégial, d'une communauté, valorisation du travail d'équipe, culture du présentisme, de l'immédiat. C'est le présent qui compte. Pourquoi ? Parce qu'avec tous les chocs pétroliers qu'ils ont connus, avec le sida qui a rempli, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et 68 a retiré beaucoup de barrières. Bon, qu'est-ce qu'il y a après XY ? Z, génération Z du mot vapeur. Image numéro 4, appelée la nouvelle génération silencieuse. Qui est dans cette génération-là ? À partir de 95 à peu près. Ouais. Tes fils, ouais. OK. Les événements, c'est quoi ? Ben, attentat du World Trade Center, 11 septembre 2001, guerre contre le terrorisme, hyper connectés car ça les relie au monde. Les caractéristiques. Cette nouvelle génération comprend en gros les enfants nés après les attentats du 11 septembre 2001. Ils ont connu ce que les générations précédentes appellent encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication, smartphones, réseaux sociaux. Et cette génération a connu le plus grand choc générationnel de l'humanité. Pour la première fois, les enfants apprennent à leurs parents à se servir de leurs outils quotidiens, téléphone puis smartphone, ordinateur puis tablette. Cette génération a dans sa poche des outils plus perfectionnés que ceux que l'entreprise propose. Pour la première fois, les salariés imposent des outils aux entreprises. À cheval, vous comprenez que c'est à quelques 10 ans près. Hein. Vous réalisez ça ? Ils accordent souvent plus de confiance aux médias dits récents qu'aux traditionnels qu'ils jugent facilement manipulables. Leur intérêt et leur confiance pour les institutions sont faibles, voire inexistantes. Proches de la génération Y dans leurs attentes, eux, ils ne connaîtront pas de difficulté à trouver un emploi. On n'en sait pas encore assez sur eux pour juger ce que sera leur culture. Images 5 et 6. Qu'est-ce qu'il y a après la génération XY, Z ? On l'a fait, oui. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Alpha. Et écoutez ce que cet écrivain, George Orwell, a écrit. Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Philippe Cahin a écrit, « Nous sommes passés, donc avec cette génération, alpha. Alpha, c'est qui ? Ben, c'est les bouts de choux qui sont parmi nous, hein, c'est les plus récents, les derniers cueillis. Il dit, « Nous sommes passés de l'ère où l'homme a dominé la nature à l'ère où la machine est dans la complémentarité intime de l'homme. » Cette génération parle Google. Leur prothèse de lien avec les amis, l'information, le commerce est en main. La connaissance est à portée d'un clic. L'enseignement s'inverse. Apprendre à la maison, faire les exercices avec les enseignants en classe. On n'apprend plus à l'école. On apprend à la maison et on pratique avec les enseignants ce qu'on a appris. Par exemple, l'école 42 de Xavier Niel en est un prototype. La génération alpha est en rupture avec le lycée napoléonien. Le savoir est un acquis. Place à la création, à l'imagination, à l'intuition. La génération alpha est le début d'un temps nouveau. Est-ce que vous voyez comment notre société a évolué? Mais est-ce que vous comprenez aussi que c'est absurde de dire à l'autre, j'ai pas besoin de toi? Alors, il est vrai que les principes, les valeurs ont évolué, mais la Bible dit que la connaissance sans intelligence, c'est dangereux. Vous savez, quand il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que, à vrai dire, ce mot-là, en hébreu, vient de la conscience du bien et du mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'a pas la conscience du bien et du mal, va finir par faire du mal avec la connaissance qu'il a. Ça commence. Mais où commence la connaissance du bien et du mal? À la maison. Et c'est pour ça qu'il faut que les parents remplissent leur rôle d'éducateur. Et que les parents ne croient pas que laisser l'enfant derrière l'ordinateur suffira pour lui donner un avenir. Ce que l'on dit, c'est qu'à vrai dire, un enfant, avant 3 ans, ne devrait pas se trouver devant un écran. Son cerveau est trop fragile. Aujourd'hui, parce que la génération d'avant, eh bien, on les a laissés facilement devant des ordinateurs, facilement devant des écrans. Mais l'impact d'un écran au niveau physique, hein, du cerveau, l'écran de télévision, l'impact de l'écran de télévision n'a pas le même impact que celui du smartphone à cause des ondes. Ça ne veut pas dire qu'on laisse un enfant devant un écran de télévision toute la journée, histoire qu'il fiche la paix. Parce qu'un enfant n'est pas capable d'analyser tout ce qu'il voit. L'enfant ne fait que absorber, mais il ne distingue pas. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur nous a donné la sagesse à l'Église. Il faut que ceux qui sont plus âgés acceptent d'ouvrir leur cœur aux plus jeunes, parce que les plus jeunes sont en train de faire rentrer l'humanité dans un temps nouveau, avec leur imagination, leur intuition. Tu m'avais fait parvenir un lien, Christelle, où on voyait une jeune femme qui utilisait la technologie pour matérialiser un monde virtuel dans lequel elle s'est retrouvée. C'est qu'aujourd'hui, on peut, par la technologie, je peux dessiner un arbre. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est dessinée comme une espèce de forêt, et elle a bien évidemment dessiné un être qui avait des oreilles pointues, ça s'appelle un démon. Elle s'est créé son propre monde. Eh bien, il vaut mieux que la conscience du bien et du mal soit développée. Mais cela veut dire que les plus jeunes peuvent donner une meilleure manière de vieillir aux plus anciens, grâce à leur imagination. Alors, ça, c'est ce que j'avais... Et je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a mis ce sujet à cœur, et de ce que nous soyons une église, nous restions une église ouverte aux talents, aux valeurs, et que nous sachions apprécier les moins jeunes, les plus jeunes, et tous ceux qui sont entre les deux. Parce que pour l'œuvre de Dieu, Dieu a besoin que nous sachions travailler ensemble. il est vrai. Est-ce que ça vous a aidé d'entendre les caractéristiques de chaque génération ? On comprend mieux comment pensent les autres. Ça veut dire qu'on doit apprendre à prier les uns pour les autres. On doit apprendre à se donner de l'espace. Mais les plus jeunes, ne croyez pas que parce que vous avez l'information, la connaissance, cela va vous garantir un succès stable et brillant. Vous avez besoin des plus anciens. Et les plus anciens vont faire les efforts nécessaires pour continuer à transmettre. Et pourquoi est-ce que le diable veut tellement créer des divisions dans les familles pour que les petits-enfants ne voient plus les enfants? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut isoler. S'il isole la génération alpha, la génération alpha ne vivra que dans son imagination. Que dans un monde virtuel. Et sera incapable de faire le plan de Dieu. Alors, faisons des efforts pour rester connectés les uns aux autres, pour garder des relations. Quelquefois, il faut apprendre à se taire, à juste laisser le temps s'écouler. Assurons-nous que cette génération alpha, elle sait qu'elle est suffisamment aimée pour aller poser des questions aux générations qui l'ont précédée. Et c'est la même chose pour X, Y et tout ce que vous voulez. Mais nous devrions savoir comment repartir en amont. Comment remonter le courant des générations. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on laisse le temps aux personnes plus âgées de parler. Je raffole d'entendre les expériences de ceux qui m'ont précédé. Peu importe que ce soit comment ils vivaient à leur époque, la manière d'exercer leur métier, ce qu'ils connaissaient du Seigneur, je raffole de cela. Parce qu'ils partagent l'expérience en même temps. Bon, Église Ecclésia 21, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer à la maison? Est-ce qu'on va accueillir les plus jeunes? Est-ce qu'on va avoir du respect pour les plus anciens? Est-ce qu'on va oser prendre le temps de transmettre aux autres? Ouh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Tout le monde est sérieux, tout le monde est... Nous, l'Église, on ne vit pas comme ceux qui ne veulent pas de Dieu. Alors peut-être que si vous avez besoin de vous réconcilier, tout à l'heure, Pasteur Marc a parlé du pardon dans un couple. Mais peut-être que si vous avez besoin ou de pardonner à quelqu'un dans votre cœur, ou peut-être de restaurer quelque chose, une communion brisée, peut-être que vous avez besoin de dire, Seigneur, eh bien, aide-moi, parce que pourquoi est-ce que le diable m'a séparé de cette personne? Pourquoi? Peut-être parce qu'il sait que cette personne a quelque chose à me transmettre. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on respecte. Vous avez entendu parler que les générations les plus âgées parmi nous, elles avaient le sens de l'autorité. Apprendre à respecter quelqu'un que l'on estime au-dessus de soi, c'est ça l'honneur. Et non, on ne parle pas à ses parents comme on parle à son ami. On ne bat pas, on ne traite pas sa grand-mère, son grand-père comme on parle à son copain. Bien sûr qu'on doit respecter les plus jeunes aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on leur manque de respect. Et apprendre à honorer. Accepter que l'autre est différent et que je dois le respecter. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ce que nous avons entendu. Seigneur, je prie afin, Seigneur, que tous ceux qui entendent ce message, eh bien, soient interpellés. Je prie afin, Père, que nous gardions les vraies valeurs de ton royaume, Seigneur, celui qui rend libre. Que tu nous apprennes à vivre comme tes enfants ici-bas. Parce que là est notre liberté. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans Dieu. Et nous, nous choisissons la manière dont nous voulons vivre. Parce qu'en fin de compte, c'est de ta volonté dont il s'agit. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes à tous, la sagesse d'apprendre à vivre avec l'autre génération, à accueillir les différences, les forces et les valeurs de l'autre. Ce qui veut dire que nous sommes prêts, mon Dieu, à changer. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.